Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et oui, car nous évoquons ces substances qui permettent de faire tourner vos téléphones portables, vos ordinateurs, les batteries. Il y a de plus en plus de batteries autour de nous, surtout si les voitures électriques sont amenées à se multiplier. Et ces terres rares, elles posent différents problèmes, des problèmes écologiques, mais aussi des problèmes géopolitiques dont il va être question. Maintenant, nous sommes en compagnie de Guillaume Pitron. Vous avez publié La guerre des métaux rares aux éditions des Liens qui libèrent. Nous accueillons Anna Créty. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Paris-Dauphine et directeur scientifique de la chaire économie du climat. Et ces terres rares, elles concernent aussi la France dans leur aspect minier, parce que les pays se rendent compte qu'il y a aujourd'hui de véritables trésors dans le sous-sol, notamment du point de vue de ces métaux rares. C'est le cas par exemple de la France en Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron a décidé de s'y intéresser. Expliquez-nous, Anna Créty.
Oui, la France est l'un des rares pays, justement rares, européens qui a un potentiel de production de ces métaux rares. Le problème n'est pas récent dans le sens que ça fait depuis 2012 qu'on essaye de comprendre s'il y a un enjeu, une rentabilité économique à exploiter des mines en Nouvelle-Calédonie, sachant que la disponibilité de ces métaux engendre quand même des investissements importants. L'accessibilité n'est pas très facile, donc il s'agit de creuser à plus de 3 kilomètres dans les sols. Donc on a fait des allers-retours, je pense que la politique française n'a pas été très nette sur ça jusqu'à présent. Maintenant, le contexte géopolitique ainsi qu'économique a changé, donc la valeur de ces métaux a changé et ça pourrait effectivement déclencher une vague d'investissement.
Investissement en Nouvelle-Calédonie, en Guyane également.
La Guyane est aussi potentiellement un autre gisement de ces métaux rares. La difficulté étant de quantifier la disponibilité de ces métaux, probablement la Nouvelle-Calédonie est mieux placée que la Guyane.
Il y a eu des mines un peu partout en Guyane, en Nouvelle-Calédonie. Guillaume Pitron, on voit que la politique minière du gouvernement, c'est une nouveauté. Alors, c'est pas une nouveauté évidemment pour le charbon, mais justement, on considère que le charbon, c'est l'ancien monde. Le nouveau monde concerné par ces terres rares est quelque chose dont notre gouvernement s'est saisi.
On s'en saisit depuis quelques années, et ça remonte même au gouvernement précédent. On commence à parler, c'est dans l'air du temps, de la mine responsable. Il s'agit de toiletter le code minier et de faire en sorte que le code minier soit adapté aux nouvelles exigences de la société française qui veut que, si tant est qu'il faille aller extraire des métaux du sol, autant que ça se fasse en faisant attention à l'environnement et aux aspects sociétaux. Aujourd'hui, la question se pose avec d'autant plus d'acuité que, comme nous l'avons dit, la Chine détient un monopole sur une énorme quantité de métaux rares. Ça pose des problème d'indépendance non pas énergétique ou alimentaire, mais d'indépendance minérale. Et à un moment, dans un contexte de transition énergétique et numérique où nos besoins sont exponentiels, se pose la question de savoir dans quelle mesure est-ce que on ne mange pas dans la main des Chinois. Et donc réouvrir des mines en France et en Europe, aller chercher des minerais auprès de partenaires extérieurs non chinois, c'est une condition nécessaire pour que nous puissions avoir notre avenir énergétique, numérique, en main.
À ceci près que vous étiez plus que sceptique sur la possibilité de faire des mines écologiques, Guillaume Pitron.
Moi, je ne crois pas au mot mine écologique. C'est un oxymore. On ne peut pas faire de mine écologique. Extraire, c'est sale. Voilà. Simplement, on ne peut pas se passer de ces métaux. Donc, à un moment, c'est comment fait-on pour extraire avec le moindre coût écologique? Est-ce qu'on laisse les Chinois continuer à nous fournir des métaux en se cachant, en se voilant la face, en ne voulant pas regarder la réalité écologique de ces métaux? Moi, je ne pense pas que ce soit la solution. Ça a trop duré. Je pense qu'il faut qu'on assume ce fardeau écologique à concurrence du poids de la France dans le PIB mondial. Après tout, c'est une mesure d'éthique, de responsabilité. Si on doit extraire ces métaux pour la transition énergétique, assumons notre part de ce fardeau. Et puis, à un moment ou à un autre, si on produit ces métaux en France plutôt que de les produire en Chine, l'extraction sera moins sale, donc les technologies seront moins sales. Donc finalement, vous voyez, extraire des mines en France, eh ben en fait, c'est quelque part écologique.
Anna Créty, qu'est-ce que vous en pensez ?
Il y a plusieurs arbitrages qu'il faut faire. D'une part, c'est vrai que la Chine s'est taillée la part du lion dans ces métaux. Alors, il y a un problème de disponibilité géologique. C'est le nouveau pétrole, donc on n'y peut rien. Hein. Les ressources arrivent là où on les attend le moins. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas négliger le fait que les conditions d'extraction en Chine ne sont probablement pas celles à la pointe de la technologie en termes de rentabilité, en termes aussi d'enjeux écologiques. Maintenant, il y a aussi d'autres possibilités qui sont à l'étude. sur comment on peut faire de la meilleure recherche et développement, donc comment on peut mieux exploiter les gisements existants. Et après, il y a aussi un autre enjeu qui est celui du recyclage. On peut effectivement investir, mais il faut aussi s'engager sur qu'est-ce qu'on a déjà et comment on l'utilise.
Pourquoi la Chine est-elle aujourd'hui une menace à cet égard? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Qu'est-ce qu'on la soupçonne de vouloir faire, Anna Kreti?
On la soupçonne de manipuler les prix de ces terres rares.
Donnez-nous des exemples.
Voilà, ce qui est quand même assez courant quand un pays détient la presque totalité des ressources, elle peut jouer avec son prix. Et en fait, plus que donner un prix très élevé à ces métaux rares, elle fait l'inverse, c'est-à-dire elle casse les prix. Elle a une stratégie dans laquelle, puisqu'elle a une certaine disponibilité de ses ressources et que ses mines sont déjà en activité, elle impose un prix qui est très faible, de façon à décourager les autres potentiels investisseurs à s'y engager.
Alors ça, c'est quand même très paradoxal, c'est-à-dire qu'elle fait du dumping, comme on dit
en français.
Elle inonde le marché avec des terres rares à bas prix. C'est quelque chose de constaté ?
Dans l'équilibre mondial qui est assez tendu entre demande et offre, il y a encore une partie de l'offre qui est excédentaire. Les contrats qui sont signés par la Chine et le deuxième acteur, c'est le Japon, ont quand même des prix différents. Maintenant, c'est des estimations parce qu'il s'agit très souvent, ce n'est pas des véritables marchés, c'est justement des arrangements en bilatéral entre pays. Producteurs et utilisateurs entre des grandes entreprises. Donc, on n'a pas non plus toute la transparence possible, ce qui fait partie également de la stratégie chinoise.
Et il y a beaucoup d'inquiétudes qui se sont faites jour sur la question donc des terres rares en Chine, parce qu'on considère que ces terres rares, elles ont donc aujourd'hui une provenance très majoritairement chinoise. L'électronique est majoritairement chinoise, la technologie, elle est également chinoise. Et du coup, par exemple, en Amérique, on se dit que si d'aventure il y avait un différend, par exemple, entre la Chine et les États-Unis, eh bien, ce différend pourrait peser sur un marché qui est aujourd'hui crucial pour toutes les économies mondiales, les ordinateurs, Anna Kreti.
Oui, alors la Chine n'a pas peur des disputes internationales. On a déjà vu quelque chose de similaire quand elle a fait du dumping sur les panneaux photovoltaïques.
Qu'est-ce qu'elle avait fait?
Et elle avait eu la même stratégie, c'est-à-dire que il bénéficie d'un effet de volume. Quand ils font quelque chose en Chine, c'est toujours multiplié par un certain nombre de zéros. Donc, ils ont quand même la marge pour avoir leur prix et leur rentabilité. Ils envahissent les marchés qui sont dépendants de ces nouvelles technologies. Donc là, par exemple, les États-Unis vis-à-vis de tout ce qui est électronique. Et probablement, ils vont imposer leurs conditions économiques. Maintenant, les relations entre États-Unis et Chine est tendue, notamment sur des enjeux écologiques majeurs pour tout ce qui concerne également les retombées de la position des États-Unis sur les accords de Paris, dans lesquels il y a déjà un fil rouge très fort entre les États-Unis et la Chine. Donc il n'y a pas que la guerre des ordinateurs, il s'agit vraiment de prendre la leadership mondiale sur certains secteurs stratégiques et les enjeux écologiques qui en suivent.
Guillaume Pitron, votre point de vue là-dessus sur la manière dont la menace chinoise est perçue du fait donc de son monopole sur les terres rares.
Qui contrôle la matière contrôle l'industrie. Et ça, en France, on l'a oublié. On a pensé qu'on pouvait se passer de la matière et qu'on pouvait laisser d'autres pays fournir la matière pour nous. Nous n'aurions qu'à récupérer la matière et puis tirer parti de la valeur ajoutée de la matière en fabriquant la technologie qui nécessite cette matière. Aujourd'hui, les Chinois nous disent c'est différent. Nous allons conserver la matière, nous allons exporter moins de matière. Ce sont les fameux quotas de terres rares depuis le tournant du millénaire qui sont à la baisse. Et donc finalement, nous avons en France un déficit de terres rares, mais les Chinois nous disent en revanche, si vous voulez des terres rares, c'est pas compliqué, venez en Chine, et là vous aurez un accès limité aux terres rares. Mais donc venez avec vos usines, venez avec vos emplois, venez avec vos brevets, votre savoir-faire. Et la Chine, de la sorte, descend la chaîne de valeur de ces métaux rares de façon à être la productrice de technologies vertes. Et donc le problème qui se pose derrière, c'est un problème industriel pour la France, c'est la question de la pérennité de nos emplois sur des secteurs d'avenir, des technologies d'avenir.
Mais ce que l'on pourrait dire naïvement aussi, c'est que la Chine a tout intérêt à vendre ses produits électroniques, puisque un pays qui est très largement exportateur comme la Chine, certes, rend le monde dépendant, puisque nous sommes dépendants à l'électronique, mais ce pays est tout aussi dépendant à ses exportations, ne serait-ce que parce qu'il a besoin, bien entendu, d'employer sa main-d'œuvre. Alors, l'équilibre des forces est-il à ce point en faveur de la Chine, Guillaume Pitron ?
Vous posez une excellente question. Effectivement, la Chine a besoin de croissance. Le Parti communiste a signé, a passé un espèce de contrat tacite que vous connaissez avec 1,4 milliard de Chinois qui est régime autoritaire, mais en échange de quoi la croissance est au rendez-vous. Et donc la Chine a permanence besoin d'innover pour gagner quelques points de croissance, calmer, apaiser de potentielles tensions sociales. Simplement, une fois qu'elle a fabriqué ces technologies, il faut qu'elle les vende. Et donc, quelque part, il y a un équilibre de la terreur. C'est ce que vous dites.
8h32 sur France Culture. On continue à évoquer ces terres rares puisque vous avez publié un ouvrage passionnant à ce sujet, Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares aux éditions des Liens qui libèrent. On découvre qu'il y a là véritablement quelque chose d'essentiel pour l'économie mondiale et pour la géopolitique mondiale. Anna Créti, vous qui êtes professeur à l'université Paris-Dauphine, quelle peut être la stratégie de la Chine? Continuer ce dumping?
Alors, il est difficile d'empêcher la Chine de continuer cette stratégie. Maintenant, est-ce qu'on peut réagir? Alors, l'idéal, ça serait de former une sorte de consortium pour pouvoir contrer la position économique de la Chine, consortium des pays qui sont certains en Europe, puis les États-Unis, qui quand même produisent aussi des terres rares. Est-ce qu'on va arriver à avoir des accords qui peuvent en quelque sorte atténuer l'importance de la production chinoise? C'est un peu difficile parce qu'il y a tout un enjeu complexe d'intérêt industriel.
Guillaume Pitron, il y a quand même une industrie qu'on a tenté de développer avec succès en France sans avoir l'élément essentiel, c'est tout simplement le nucléaire. On a encore des mots en homme, je ne sais pas si on peut considérer que le plutonium, l'uranium sont des terres rares, probablement non. Pas, mais en tout cas on a réussi à développer cela et on a réussi à avoir la maîtrise de l'approvisionnement. Pourquoi aurait-on un problème avec les terres rares?
Nous avons développer une stratégie de sécurisation de nos exportations, de nos importations d'uranium. Simplement, en France, on n'a pas fait la même chose avec tous les nouveaux minerais qui allaient se révéler être tout aussi importants pour nos équilibres énergétiques. Donc, il faut effectivement le faire. Ça pose la question de la relance de mines en France, et notamment de mines de terres rares. On sait qu'il y a des gisements, notamment en Armorique, de ces terres rares. On pourra, après tout, en France aussi, les produire. Et puis, comme Anna Créti l'a dit, le problème, c'est que nos mines et nos minières, les sociétés minières, fonctionnent sur un modèle capitalistique qui est que si le prix du minerai est à 100, un exemple, eh bien je vais être rentable. Mais si la Chine en même temps baisse les prix, manipule les prix des terres rares à la baisse et fait que le prix n'est plus à 100 mais à 10, il n'y a plus de modèle économique en face. Et donc la mine se ferme. En revanche, qui arrive derrière? Les Chinois qui rachètent le brevet minier pour 3 fois rien. Et les Chinois se rendent maintenant propriétaires de toutes les mines de terres rares en dehors de la Chine.
Ce qui signifie par exemple que pour une entreprise comme Renault ouais, a axé son développement sur la voiture électrique, mmh. Eh bien si Renault n'a pas accès aux terres rares qui sont indispensables pour les batteries de ses voitures électriques, Renault aura un vrai souci industriel. Or déjà, on voit que pour la voiture électrique, les deux roues électriques, il y a véritablement une avance de la Chine, Guillaume Pitron.
Ivan Glasenberg, le PDG de Glencore, a signé un contrat avec des Chinois récemment pour l'approvisionnement de cobalt congolais. Et il a dit au Financial Times, ça a été rapporté dans le Financial Times, passionnant, il y a 15 jours, il a dit, mais si les Chinois ont la ressource de cobalt qui est nécessaire pour les batteries des voitures électriques, alors ne vous étonnez pas qu'ils fabriquent les batteries et ne vous étonnez pas qu'ils fabriquent la voiture électrique. Les Chinois tiennent la matière, donc ils vont tenir le produit fini, ils vont remonter la chaîne de valeur et de la sorte, ils vont rendre tout le monde dépendant, pas seulement de la matière, mais tous les composants. Et ça, c'est avis de tempête sociale en France et en Europe, si on laisse les Chinois faire ça sur la voiture électrique.
Anna Créti.
Oui, il y a vraiment une stratégie de remontée de la chaîne de valeur dans l'amont. C'est là la véritable différence entre les beryllium, les cobalt et l'uranium. L'uranium, c'est vent. C'est sur un marché où il y a plusieurs producteurs. Il y a, oui, en partie la Chine, mais par exemple, il y a aussi l'Australie, il y a les États-Unis, et il y a un cours de l'uranium. Donc, on n'a pas cette dépendance avec les contrats privés, donc des négociations qui peuvent être à l'avantage de la Chine, qui impose en fait sa stratégie.
Et donc, on voit qu'aujourd'hui, en l'absence d'une stratégie des pays occidentaux, je vois par exemple pour la question des batteries, eh bien, on risque d'être non seulement concurrencé, mais même complètement marginalisé sur ces marchés, comme ça a déjà été le cas pour l'électronique. Par exemple, la France n'a pas été capable de développer un secteur électronique puissant pour les ordinateurs grand public, par exemple Anna Créti.
Oui, il y a un problème de dépendance. Bon, ça arrive quand il y a des matériaux qui sont très indispensables en fait pour la construction et qui ne sont pas approvisionnés sur le territoire. Maintenant, toutes ces mouvements sur les terres rares va inciter aussi d'autres pays à faire éventuellement des stratégies d'exploration ou d'exploitation. C'est déjà le cas pour de nouveaux pays qui semblent pouvoir faire leur entrée dans ces marchés, donc le Japon, le Burundi, si on suit l'actualité, ils sont en train de voir s'ils peuvent eux-mêmes contrer la Chine. Donc c'est à la fois un risque, mais aussi une opportunité économique pour d'autres pays.
Et lorsqu'un bien est précieux, généralement, il déclenche des guerres, des tensions, des conflits. Il y a eu une guerre de l'opium, si je parlais des guerres du pétrole, personne ne serait étonné. On ne parle pas encore de guerre des terres rares et on a peut-être tort. Alors, il y a d'abord des tensions locales. Il y a actuellement, par exemple, depuis 15 jours, une forte tension entre le Japon et la Chine sur les terres rares. Guillaume Pitron, pouvez-vous nous exposer ce qui est en jeu ?
Le Japon est extrêmement dépendant des terres rares chinoises et particulièrement lui parce que c'est un pays où le high-tech représente une part importante du PIB. En 2010, les Chinois ont dit aux Japonais, c'est terminé, vous n'aurez plus de terres rares. Pendant 6 mois, embargo complet sur les terres rares à destination du Japon. C'était la panique au Japon. J'étais au Japon quelques mois après. Donc les Japonais doivent contourner le monopole chinois et aller développer des nouvelles sources alternatives de terres rares pour ne pas manger dans la main des Chinois. Et notamment, ils s'approvisionnent en Australie. Et tout récemment, le Japon a même dit, mais nous avons des terres rares chez nous, dans nos océans, au fond des océans, à 6000 mètres sous la mer, se dorment en fait des réserves de nodules polyméthaniques. On pourrait, on dit les Japonais, les extraire et subvenir à nos besoins pour 800 ans. Donc on voit cette géopolitique qui est en train de bouger des terres vers l'océan. Et je pense qu'il y a une géopolitique des océans qui est en train de se mettre en place pour aller extraire ces fameux minerais de la transition énergétique.
Anna Créti.
Le problème, c'est que le procédé d'extraction des terres rares en mer n'est pas encore au point. Donc le Japon a affirmé qu'il faudra au moins 5 ans pour que ceci soit effectivement exploitable. C'est dit, le mouvement a commencé. Donc il y a là aussi une forme de transition qui est énergétique et qui va voir d'autres pays prendre le leadership du marché.
Est-ce que ça pose des problèmes en droit international, l'exploitation des fonds marins qui, donc, vous le dites, a déjà débuté un peu partout, mais donne encore lieu plus à des expérimentations qu'à des exploitations véritables en matière de terres rares?
Alors, les dangers est un problème essentiellement écologique. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'empreinte carbone quels sont les dangers sur les espèces, sur la biodiversité, dans les milieux marins de ces nouveaux procédés. Donc, évidemment, on peut commencer, le Japon va commencer à exploiter ces gisements en mer sur leur propre zone territoriale. Donc, ils sont libres, plus ou moins, de le faire. Mais jusqu'où ça va après contaminer les eaux qui rentrent, par contre, dans les territoires internationaux, aujourd'hui, c'est une source d'incertitude.
Il y a donc effectivement des nouvelles fractures qui sont en train de voir le jour, des fractures territoriales. Moyen-Orient, en matière de pétrole, on sait où il est. En matière de terres rares, il se situerait dans des lieux qui ne nous sont pas nécessairement familiers. Je parlais de la Chine tout à l'heure. Le Groenland est aussi aujourd'hui un enjeu. Expliquez-nous pourquoi, Guillaume Pitron.
Le Groenland est un potentiel producteur de terres rares. On sait qu'il y a des gisements de ces métaux rares et de ces terres rares en abondance, ce qui fait du Groenland un potentiel géant minier. Et quand on sait que les besoins de terres rares sont exponentiels, ce n'est pas illogique d'aller ouvrir des nouvelles mines en Afrique, en Amérique latine et aussi au Groenland. Simplement, encore une fois, j'attire votre attention sur le fait que ce sont les Chinois qui sont en train de se positionner là-bas.
Le c'est Groenland, il appartient à qui ?
Au Danemark. Alors le Groenland, comme vous savez, est dans un processus de déclaration de son indépendance. Est-ce que ça aura un impact sur le marché des terres rares ? Je ne le sais. En tout cas, ce sont les Chinois qui se positionnent. Les Chinois ont besoin de ces terres rares pour leur industrie, pour ne pas vendre encore une fois le minerai, mais le produit fini au reste du monde.
Mais alors, comment ça se fait-il,
eh bien, ils retirent le minerai du marché pour pouvoir ensuite fabriquer le produit fini qu'ils vont vendre aux Français.
Mais alors, comment cela se fait-il que les Chinois parviennent à mettre la main sur des minerais au Groenland?
Mais parce que ce sont des stratèges. Les Chinois ont une vision à 20 ans. Ils pensent en fait tous ces enjeux-là très en amont. Et nous ne sommes plus ou pas capables, dans nos pays occidentaux, de poser en fait ces stratégies d'acquisition minière dans une si longue durée. Et c'est la patience justement du dragon chinois qui permet de les rendre maîtres de ce pétrole du 21e siècle.
Anna Créti.
Non, ben, c'est vrai que c'est un peu les contradictions, c'est-à-dire que une économie qui n'est pas qui reste sous une forme d'un contrôle d'État, peut parfois avoir cette vision à long terme, alors que bon, dans les pays capitalistes, il y a quand même plus une explosion de différents intérêts, de différentes industries. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont des stratèges, avec aussi le danger qu'ils puissent un jour se tromper.
C'est-à-dire ?
Je ne sais pas si on va le faire rentrer partout et aussi facilement maintenant qu'on comprend leur stratégie. Donc, il est possible que les Groenland, c'est peut-être un peu à la limite parce qu'il appartient au Danemark, il demande l'indépendance, il verra peut-être un intérêt à faire des négociations avec la Chine, mais maintenant on a compris quelle est la stratégie. Donc c'est un peu aussi aux pays industrialisés de réagir.
Et toujours dans le domaine de ces terres rares, parce que là aussi on voit dans quelle mesure elles sont présentes dans l'actualité, même si on ne les perçoit pas comme telles, on voit que dans les affrontements en RDC, au Kivu, il y a également une conséquence directe ou indirecte de cette recherche des terres rares, Guillaume Pitron.
En tout cas, des métaux rares et d'un métal rare qu'on appelle le tantale.
Qu'est-ce qu'on fait avec le tantale ?
Le tantale est utilisé dans toutes les technologies. On en a besoin notamment dans un téléphone portable. Il est extrait notamment dans l'est de la RDC Congo. Et on sait, ça fait des années que ça dure, tous les conflits que ça peut générer, l'accès à la ressource.
Rappelez-nous les conflits que ça a généré, parce que les conflits du lac Kivu, qui ont provoqué des millions de morts, sont malheureusement assez méconnus.
L'accès à la ressource permet de financer des groupes paramilitaires qui sont responsables d'une guerre civile dans cette zone du monde. Et donc, vous voyez bien le lien direct entre, d'un côté, nos besoins croissants en cette technologie et le fait qu'il faut aller les chercher quelque part, dans des zones où règne l'anarchie et avec les conséquences militaires que ça peut avoir.
Anna Créti.
Donc, il ne faudrait pas que l'extraction de terres rares soit l'élément qui fait basculer certains pays qui ont un équilibre politique et militaire déjà difficile vers des situations chaotiques, sous couvert qu'il y a un besoin économique mondial.
Vous pensez notamment à la RDC, par exemple.
Oui, le Congo a toujours eu ces problèmes avec les minerais, qu'il s'agisse de terres rares ou de charbon. Donc, ils sont déjà assez convoités la connivence des gouvernements en a fait des cas spécifiques, donc il ne faudrait pas à nouveau revenir sur ces paradigmes.
Et alors vous allez même plus loin, Guillaume Pitron, puisque vous dites que les terres rares ne concernent pas seulement la Terre, mais qu'elles concernent finalement la galaxie tout entière, puisque on pourrait se mettre à vouloir exploiter des terres rares qui seraient présentes, je mets ça au conditionnel, un peu partout dans la galaxie, sur des planètes éloignées.
Mais c'est passionnant, parce qu'en réalité, comme nous avons besoin de ces terres rares, nous sommes en train, comme on l'a dit, d'aller extraire, d'aller regarder les océans. Et puis, l'administration Obama fait passer une loi en 2015 en disant, mais après tout, des terres rares, il y en a même dans les astéroïdes, et nous allons faire passer une loi pour qu'un orpailleur spatial, dit l'administration américaine, eh bien, puisse aller chercher ces quelques grammes de terres rares dans une astéroïde, et il se rendrait propriétaire de ces terres rares. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, au nom de la sobriété, au nom de la transition énergétique, nous sommes en train de repousser d'étendre le domaine de la mine, nous sommes en train d'aller toujours plus loin dans la possibilité possibilité d'extraire ces métaux jusque dans les territoires tabous. Et la propriété de ces espaces-là est en train de se mettre en place. On est en train de dépecer les océans comme un bocage normand de manière à ce que demain nous puissions avoir accès à ces minerais. Donc on voit bien la géopolitique potentielle qui se met en place sur des territoires qui jusque-là n'étaient pas occupés par l'homme pour aller extraire ces ressources.
Bah, les conséquences sont quand même vertigineuses parce que cela signifie d'abord que les États-Unis légifèrent sur la propriété des minerais qui seraient extraits sur des planètes. Ça signifie aussi que la conquête spatiale qui jusqu'ici était principalement animée pour des raisons de découverte scientifique serait animée par des motivations purement économique.
Il faut de la propriété privée pour avoir accès à l'espace. Aujourd'hui, le modèle de conquête spatiale, c'est le New Space, le nouvel espace, qui repose non pas sur les acteurs publics, mais les acteurs privés. Et si vous voulez convaincre les acteurs privés d'aller investir leurs dollars dans l'espace, il faut leur donner en échange un accès à cette propriété privée, et notamment aux matières premières. Et donc, c'est ce qu'on voit se mettre en place. Et de la sorte, nous sommes peut-être à l'aube d'une nouvelle forme de conquête spatiale.
Anna Créti.
Je ne sais pas si ce scénario est futuriste. C'est vrai que ça fait un peu froid dans les dos de comprendre que la conquête de l'espace qu'on a vécu sous un autre jour va dépendre de la transition énergétique. En tout cas, je pense qu'avant d'arriver là, il y a encore des gisements et des stratégies industrielles qui peuvent améliorer ou contrer, encore une fois, la position chinoise.
Bah, on voit par exemple qu'un industriel comme Elon Musk, qui possède donc l'entreprise Tesla, qui est à la fois positionnée sur la voiture électrique, sur les batteries, parce que indépendamment même de son activité de voiture électrique, il produit des batteries domestiques qui permettraient de stocker de l'électricité, qui ont besoin de terres rares. Cet homme est également très présent sur la conquête spatiale.
Il est présent sur la conquête spatiale. Elon Musk est très présent sur les batteries. Il a besoin de ces matières. Il le sait. Il sait qu'il a besoin de lithium, par exemple, pour fabriquer ses batteries lithium-ion. Et il est en train d'aller sécuriser directement ses approvisionnements lithium avec le Chili en ce moment, parce que il a besoin, il l'a compris, comme les Chinois, d'avoir cette matière disponible pour ses rêves de grandeur.
Le message de votre livre, La guerre des métaux rares, c'est cette guerre a lieu, Guillaume.
Ouais, c'est
une guerre économique. Et la France ne doit pas se voiler la face. Elle doit en être l'acteur et réussir à se positionner si elle ne veut pas voir fuir toute une série d'emplois.
Je ne crois pas que cette transition énergétique soit une transition pacifique. Je crois qu'on croit cette transition énergétique comme étant un passage de l'ombre à la lumière, et puis après tout ira bien. Il y a une forme de naïveté autour de ce nouveau modèle énergétique qui charrie d'immenses défis, des défis aussi importants que les problèmes qu'elle s'était donné pour mission de résoudre. L'après-pétrole n'est pas du tout un âge de sagesse et de sobriété, bien au contraire. Nous rentrons dans un monde qui est dangereux, qui va être dominé par la Chine. C'est ça que j'ai constaté en écrivant ce livre, et il faut que la France soit bien consciente de tout cela.
Un mot de conclusion, Anna Créti, sur cet enjeu que représentent les terres rares, qui est un enjeu méconnu mais omniprésent aujourd'hui dans l'économie.
Oui, c'est vrai qu'on entre dans une période où on a décidé de faire la transition énergétique. Et comme je le constate souvent, on n'a pas toujours calculé les coûts de cette transition. C'est-à-dire qu'on s'est posé des objectifs qui sont des objectifs de moyen long terme. On s'est focalisé sur les problèmes de la décarbonation. Parfois, le chemin pour y arriver peut être périlleux. Et le cas des terres rares en montre un exemple.
Merci à tous les deux. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, La guerre des métaux rares aux éditions des Liens qui divergent.